Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes notre débat sur la Guinée. À quand la fin de la transition ? Je vous rappelle que selon le calendrier initial, le retour des civils au pouvoir était prévu au plus tard le 31 décembre 2024. Rappelez-vous, lors de son discours du Nouvel An, le général Doumbouya s'était montré plutôt rassurant en annonçant que 2025 serait une année électorale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Mais la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Je pense que c'est impossible, a déclaré Ousmane Gawal Diallo. Une petite phrase qui, évidemment, vous qui êtes en Guinée, ne vous laisse pas indifférent. RFI vous donne donc la parole ce matin. Vous nous appelez, vous nous rejoignez. 33 9 693 693 70. Et vos commentaires, évidemment, comme tous les matins, sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, j'en lirai quelques-uns, pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec des questions sur l'avenir des relations entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la CDAO. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à toute l'équipe de cette émission, les auditeurs y compris.
Merci Ibrahim, vous nous suivez à Niamey dans la capitale du Niger grâce à l'application RFI Pure Radio. Depuis mercredi dernier, votre pays comme le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso ne sont plus membres donc de l'organisation ouest-africaine et vous avez donc des questions.
Exactement, j'ai plusieurs questions à ce sujet.
Oui.
Ce départ va-t-il compromettre la libre circulation des personnes et des biens au sein des pays de ces deux organisations ?
Question évidemment légitime que vous pouvez vous poser. Quid de la libre circulation des personnes pour les 72 millions d'habitants de ces trois pays qui sont, je vous le rappelle, rassemblés au sein de l'Alliance des États du Sahel ? Bonjour David Bachet.
Bonjour Juan, bonjour Ibrahim, bonjour à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, ce départ compromet-il la libre circulation des personnes ?
Alors a priori, ça semble inévitable, puisque cette liberté de circulation des personnes, de leurs biens, mais aussi des marchandises, eh bien c'est le principal avantage commun des pays membres de la CDAO, et les trois pays de l'AES ont décidé de la quitter. Ce qui n'empêche pas des arrangements, des accords, en fonction des intérêts de chacun des deux blocs. Donc, pour savoir dans quelle mesure ces avantages seront compromis, eh bien, il va falloir attendre la fin des négociations qui doivent désormais s'ouvrir entre la CDAO et les trois pays de l'AES. Ceci dit, dans un premier temps, pour le moment, non, cette liberté de circulation n'est pas compromise. Mercredi dernier, le 29, premier jour à partir duquel le Mali, le Niger et le Burkina ont officiellement cessé d'être membres de la CDAO, l'organisation sous-régionale a annoncé sa décision de maintenir ses avantages jusqu'à nouvel ordre.
Oui, jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire, David Bachet, pour la durée des négociations, jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient officiellement adoptées.
Voilà, c'est ça. Donc, pour être bien clair, actuellement et pendant toute cette période de négociation, eh bien, les passeports et cartes d'identité des citoyens de l'AES portant le logo de la CDAO restent valables. Les droits de circulation ou d'établissement continuent de s'appliquer et les biens et services restent exemptés de droits de douane. Ibrahim, vous qui êtes à Niamey, vous pouvez donc utiliser votre passeport actuel ou votre carte d'identité actuelle avec le logo de la CDAO pour circuler en Afrique de l'Ouest, même si votre pays, le Niger, n'est plus membre de la CDAO. Mais c'est temporaire. La CDAO indique avoir pris cette décision dans l'intérêt supérieur des populations pour éviter en fait une rupture trop brutale. Quant à savoir comment cela se passera à terme, eh bien ce sont encore une fois ces discussions à venir qui devront le déterminer.
Ibrahim, votre deuxième question, on vous écoute.
Monsieur Gomez, donc comme je comprends, si la CDAO réagit, il y aura des conséquences, notamment sur nous les ressortissants de l'AES.
Alors,
la deuxième question,
oui.
Juan, la deuxième question, quelle sera la monnaie de ces trois États de l'AES ?
David Bachet.
Eh bien, ce sera le franc CFA, comme avant. La monnaie ne change pas, Ibrahim, puisque les trois pays de l'AES quittent la CDAO, mais ils ne quittent pas l'UEMOA, l'espace monétaire ouest-africain échappe étrangement aux accusations de manipulation dont la CEDEAO fait l'objet. Les trois pays n'accusent pas l'UMOA d'être à la solde d'intérêts extérieurs, d'être à la solde de la France, et donc le Mali, le Niger et le Burkina en restent membres. Je rappelle que l'UMOA rassemble 8 États, tous membres également de la CEDEAO, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Sénégal.
Et rester dans cet espace implique que la monnaie de ces trois pays reste donc le franc CFA.
Absolument, mais ça implique pas ça seulement, ça implique aussi que la liberté de circulation des personnes, des biens et des marchandises, qui est garantie au sein de l'espace UMOA, continue de s'appliquer. Et ça, évidemment, ça limite les conséquences de la sortie de la CEDEAO, même si des poids lourds de l'économie régionale ne sont pas membres de l'UMOA, comme le Nigeria ou le Ghana. Cela dit, la question de la monnaie de l'AES, Ibrahim, elle se posera dans les années qui viennent, puisque la CEDEAO a pour projet la création d'une monnaie commune, l'éco, et que les pays de l'UMOA sont impliqués dans ce projet. Il s'agira alors pour l'AES de faire un choix. Mais on n'en est pas là, et aucune annonce claire n'a été faite sur le sujet par les dirigeants de l'AES. Alors, certains observateurs, certains chercheurs sont convaincus que les trois pays vont sortir de l'UMOA et vont créer leur propre devise. D'autres observateurs, d'autres chercheurs estiment qu'ils n'en ont pas la capacité et surtout que ça ne serait pas dans leur intérêt. Moi, je ne ferai aucun pronostic.
Évidemment. Ibrahim, vous avez une dernière question, profitez-en, David Bachet est toujours avec nous. Allô ? Ibrahim ? Ah, on a une petite difficulté téléphonique avec Ibrahim, on va essayer de le rappeler dans un instant, bien évidemment. David Bachet, restez avec nous. On va repasser très vite au standard avec d'autres questions à la rédaction. Tiens, des questions sur cette affaire qui embarrasse la présidente du Conseil italien, la chef du gouvernement italien. Bonjour Edith Divin.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous et une pensée vraiment pour les compatriotes de Goma.
Vous nous appelez, vous, de la République démocratique du Congo. Vous êtes dans la capitale à Kinshasa. Quelles sont vos questions, Edith Divin ?
Sûrement, Juan. Giorgio Meloni est soupçonné d'avoir facilité l'extradition d'un chef de police judiciaire libyen, pourtant visé par un mandat d'arrêt de ce pays.
Oui.
Alors, je voudrais savoir, sur quels éléments de ces bases le parquet de Rome pour avoir pour ouvrir une enquête, que risquent les personnes visées par cette enquête?
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le chef de la police judiciaire libyenne était en Italie. Il a effectivement été arrêté. Et quelques jours après cette arrestation, il est retourné en Libye alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'il est poursuivi par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Rome, sur quels éléments s'appuie la justice effectivement pour enquêter sur la chef du gouvernement italien ?
Alors, je vais répondre à cette première question d'Eddie. Eh bien, le procureur de Rome, Francesco Lovoi, a ouvert une enquête parce que c'est un devoir quand un citoyen porte plainte contre une affaire qui n'apparaît pas infondée. Ce citoyen est un avocat, Luigi Ligotti, ancien militant de droite. Dans la plainte qu'il a déposée, il soupçonne la chef du gouvernement, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que le secrétaire d'État délégué aux services secrets de complicité dans la remise en liberté d'Osama Al-Masri Najim, accusé, vous l'avez dit, par la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, j'ajoute notamment contre des migrants dans le centre de détention de Mitiga dont il est le directeur.
Ouais, il faut préciser également, Anne Lenir, que Giorgia Meloni et donc ses trois membres de son exécutif sont aussi soupçonnés d'un autre délit. Que risque-t-il ?
Oui, effectivement, l'avocat Ligotti a également émis l'hypothèse de détournement de fonds publics en raison de l'utilisation d'un avion des services secrets pour le rapatriement du tortionnaire Al Tripoli. Suivant la législation italienne, l'enquête a été confiée au tribunal des ministres qui a 90 jours de délai pour classer ou non le dossier. Si le dossier n'était pas classé, les députés et sénateurs devraient se prononcer via un vote sur la levée de l'immunité parlementaire des personnes visées par l'enquête pour autoriser les poursuites judiciaires. Mais vous savez, compte tenu de la solide majorité de droite et d'extrême droite au Parlement, eh bien, cette autorisation ne serait sans doute pas accordée.
Voilà, donc Giorgia Meloni soupçonnée d'avoir facilité donc, le départ de ce chef de la police judiciaire libyenne vers Tripoli. Vous avez d'autres questions, Edith Divin ?
Oui, Juan. Pourquoi cet homme a-t-il été rapatrié alors que l'Italie est membre de la CPI ? Ouais.
J'imagine à le dire que c'est la question que tout le monde se pose en Italie.
Ah oui, absolument. C'est la question que se posent avant tout les partis d'opposition qui réclament depuis plusieurs jours et en vain les éclaircissements politiques de la chef du gouvernement devant le Parlement. Alors au stade actuel, on sait que la Cour d'appel de Rome a relâché Osama al-Masri Najim le 21 janvier, deux jours après son arrestation à Turin, car le ministre de la Justice, Carlo Nordio, n'a pas répondu à ses sollicitations sur la suite à donner au mandat d'arrêt de la CPI.
Ouais, concrètement, Anne Lenir, le ministre de la Justice aurait dû intervenir au moins pour prolonger la détention du criminel libyen à Turin.
Oui, mais Carlo Nordio est resté inerte, car il n'aurait pas reçu à temps les actes de la CPI. En réalité, le gouvernement savait bien de quoi il retournait depuis le 18 janvier, date de l'émission du mandat d'arrêt. Qui plus est, le confortable Falcon 900 qui a ramené Osama al-Masri Najim à Tripoli était prêt à décoller dès le matin du 21 janvier, alors que le garde des Sceaux a annoncé vers 16h qu'il étudiait le dossier. Après l'opération de rapatriement, eh bien le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré, je cite, « avoir ordonné l'expulsion d'un sujet dangereux pour des raisons de sécurité nationale ».
Oui, sécurité nationale, pourtant il est poursuivi donc par la Cour pénale internationale. Cette thèse de sécurité nationale, Anne Lenir, elle est défendue par Giorgia Meloni, par la présidente du Conseil.
Oui, elle l'a soutenue dans une vidéo sur Facebook, tout en fustigeant le procureur de Rome, qu'elle considère comme un des magistrats politisés qui rament contre son gouvernement. Mais la presse, qui se base sur des sources informées du dossier, estime que la libération du dirigeant libyen, membre des forces spéciales RADA, est liée à son rôle en faveur de l'Italie. D'une part, afin de préserver l'accord de 2017, entre Rome et Tripoli, pour freiner les flux migratoires vers Lampedusa, d'autre part pour protéger le géant italien des hydrocarbures Eni qui investit énormément dans les ressources pétrolières et gazières de la Libye. Alors, dit d'une manière crue, Osama al-Masri Najim serait un prédateur nécessaire pour le gouvernement qui n'aurait aucun intérêt à ce qu'il dévoile des secrets.
Affaire à suivre en tout cas. Edith Divin, a-t-on répondu à vos questions ?
C'est parfait, j'en remercie vraiment Anne Lenir et être plus de succès.
Eh bien, c'est normal, on est là pour ça. Et Anne Lenir, c'est fait un plaisir évidemment de vous répondre. À très vite, Anne Lenir, correspondante de RFI à Rome. Il est 9h23 à Paris. On a des questions maintenant sur la Syrie. On est à peu près à deux mois que chutait le régime de Bachar al-Assad. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu. Quelles sont vos questions ?
Merci. J'ai des questions. La première question, en Syrie, Ahmed al-Sharaa a été désigné président pour la transition.
Oui.
Qu'est-ce qu'il attend de son projet pour le pays ?
Ah, bonne question que vous posez. C'est vrai qu'il était de facto l'homme fort du pays depuis le 8 décembre. Eh bien, désormais, il est le dirigeant officiel de la Syrie pour cette période de transition. Bonjour Hasni Abidi.
Bonjour, Juan Gomez.
Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, que compte faire Ahmed al-Sharaa durant la transition ? A-t-il dévoilé son projet pour le pays ?
Oui, il a dévoilé son projet. Il est différent de ce qu'il avait annoncé auparavant. Il y a un certain changement dans la feuille de route du président aujourd'hui. Il était déjà président par la force des choses. Aujourd'hui, il a officialisé sa nomination en tant que président intérimaire. On était plutôt dans un gouvernement plutôt de transition qui expire au mois de mars. Depuis le dernier discours, le président a annoncé des décisions importantes, révolutionnaires, la dissolution bien sûr de l'Assemblée qui est héritière de l'ancien régime, mais surtout la dissolution de l'armée syrienne et la dissolution de tous les groupes armés, y compris son organisation à lui-même, HTS, Hayat Tahrir Hashem, pour construire une nouvelle armée, la fin bien sûr aussi de la Constitution, et il a annoncé la préparation d'un comité consultatif restreint, c'est-à-dire il va faire l'office d'un parlement, un gouvernement, il a annoncé la nomination d'un gouvernement d'inclusion avec la participation de tout le monde, et se préparer bien sûr à la rédaction d'une nouvelle Constitution qui sera plutôt le fruit d'une grande conférence nationale de dialogue. Tout ça est beau, mais on n'a aucun calendrier.
Ben voilà, c'est ça.
On n'a pas des précisions sur la suite.
Aucune date n'a été annoncée, ni pour la future constitution, ni pour les élections. On ne sait pas quelle sera la durée de la transition. Ça prendrait des années, selon vous, Hassani Abidi ?
Écoutez, théoriquement, dans les processus de transition, il faut compter entre 7 ans, 8 ans, parce qu'on a des expériences comme la Tunisie. La constitution a pris beaucoup de retard et les autorités syriennes planent sur 3 ans, finalement, pour accoucher d'une nouvelle constitution, parce que le comité consultatif ou le comité même constitutionnel va proposer une constitution et elle va être soumise à un référendum, puisqu'on n'a pas une assemblée constituante, comme c'est dans le cas tunisien. Donc c'est toute une engineering un petit peu compliquée à faire, sauf que nous avons affaire à des anciens révolutionnaires, des anciens membres d'une organisation classée, toujours classée comme organisation terroriste, et donc aucune expérience en la matière. Et donc le Shara est obligé finalement de faire appel à des ressources humaines en mesure vraiment de se pencher sur la question de la transition.
Hassani Abidi, restez avec nous car Ibrahim a justement une question à vous poser sur une des décisions prises la semaine dernière par Ahmed Al-Shara. Ibrahim.
Oui, il a annoncé la dissolution de l'armée et des différents groupes qui l'ont aidé à prendre le pouvoir pour construire une nouvelle armée syrienne. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer des tensions ?
Hassani Abidi, c'est une vraie question.
Oui, c'est une question qui fait suite à la première, c'est-à-dire que la fin de cette armée syrienne, qui restait tout de même liée à la doctrine de Bachar al-Assad, généralement dans des processus transitionnels, seuls les membres de forces armées ou même du parti Baas qui ont les mains entachées du sang ou qui ont volé l'argent public sont exclus de tout processus transitionnel parce que la transition est réussie dans l'inclusion. Alors là, mettre fin à l'armée, ça veut dire qu'il y a un vide sécuritaire très important. Mettre fin aussi aux organisations au sud et du nord qui ont marché sur Damas pour chasser le régime de Bachar al-Assad, comment ils vont être intégrés ? Quel est l'avenir des forces démocratiques ?
Et j'écoutais, excusez-moi, la question est pertinente. J'écoutais ce matin Manon Chaplin, qui est l'envoyé spécial de RFI, elle était à Souéida, qui est le fief de la minorité chiite druze, où les deux principaux groupes armés refusent pour l'instant de déposer les armes tant qu'ils n'ont pas obtenu des gages, et notamment la rédaction d'une nouvelle constitution.
Oui, bien sûr. Il y a toujours. D'ailleurs, c'est un élément important et sérieux de tension. Les Nations Unies, il y a quelques jours, ont fait leur constat. Ils ont dit le conflit en Syrie n'est pas terminé parce qu'on sait très bien que l'organisation d'État islamique est toujours là et ont toujours eu une politique opportuniste et tout vide sécuritaire ne peut que profiter à eux, sans parler bien sûr des anciens, des partisans du régime syrien qui n'ont pas disparu. Donc cette question de vide sécuritaire, mais aussi l'absence de garantie, la transition ne peut pas réussir sans garantie, et l'absence de tous ces éléments-là contribuent finalement à une inquiétude et à une grande incertitude quant à l'avenir de la Syrie. Mais les Syriens aujourd'hui sont inquiets, certes, probablement, mais sont très contents, soulagés de la chute de l'ancien régime. Ils voient un petit peu que les nouvelles autorités essayent de proposer une feuille de route, mais malheureusement, elle est loin de convaincre tous les Syriens.
L'analyse d'Hassani Abidi. Ibrahim, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très bien, Juan. Je suis très satisfait et j'en profite pour vous dire qu'on est très impatients de voir vos antennes rétablies à Bamako.
Vous êtes au Mali, dans la capitale malienne, à Bamako. Merci infiniment de votre confiance et de vos encouragements. À très vite, Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Dans 10 minutes, notre débat du jour. À quand la fin de la